dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Rien ne le prédestinait au cinéma ou à la scène. Cet athlète de haut niveau, 112 sélections en équipe de France de volley, dont il a même été le capitaine. Et pourtant, il est devenu metteur en scène, scénariste de cinéma et de bande dessinée, producteur, acteur, écrivain. Qu'est-ce qui fait courir David, Harrison Flowers, Les Marmottes, Au Jérusalem? Voilà quelques-uns des films qu'a signé cet ancien assistant réalisateur de Claude Lelouch, qui le placera d'ailleurs des deux côtés de la caméra. Mais son plus gros succès public, c'est sans doute la comédie musicale Les Dix Commandements, écrite avec Pascal Obispo, qui a tutoyé les 2 millions de spectateurs en France et à l'étranger. Il revient sur son parcours dans un livre très personnel et très émouvant, Le Dictionnaire de ma vie d'Eli Chouraki, sort demain aux éditions Kero, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Eli Chouraki.
Bonjour.
Mon Dieu, comme je hais les sorties de films. C'est ce qu'on peut lire, page 232 de ce dictionnaire.
Ouais.
Une petite phrase qui suit une anecdote assez douloureuse, hein, que vous racontez après un passage sur l'antenne d'une autre radio, dans une grande émission populaire. Est-ce que vous haïssez aussi les sorties de livres?
Non, c'est pas pareil une sortie de livre, parce que d'abord, tout ne se joue pas le mercredi à 14h.
Oui, parce que quand sort un film à 14h, on sait si le film a une chance de marcher ou pas.
À peu près ce qui va se passer dans les 50 années qui suivent. Donc c'est
une
cruauté terrible. Et que le rapport entre un auteur et son film et celui entre un auteur et son livre sont deux choses différentes. Quand je suis metteur en scène d'un film, quand vous allez le voir, moi j'ai terminé. Moi, je suis déjà loin, je suis déjà sur autre chose. J'ai fait mon parcours avec lui. Il est là, c'est comme un enfant que j'ai auquel j'ai montré le chemin. Et je lui dis, écoute, essaie d'aller le plus loin possible. Mais là, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Le rapport entre un livre et son auteur, c'est un rapport qui est très personnel. Entre un type ou une jeune femme ou une femme qui va lire ce livre et qui est seule dans ce livre... face à celui qui l'a écrit. C'est vraiment quelque chose, c'est un tête-à-tête. Et ce tête-à-tête, dans 50 ans, peut avoir lieu. C'est-à-dire que je ne me compare pas à Tourguenieff ou à Victor Hugo, mais quand je prends un Tourguenieff, quand je reprends mon premier amour, je parle de Tourguenieff parce que c'est l'auteur qui m'a le plus enchanté quand j'étais un jeune homme. Si je lis aujourd'hui un Tourguenieff, je sais que je suis face à Tourguenieff. Et que c'est lui, directement, qui me raconte son histoire, et j'entends le crissement de sa plume sur le papier. C'est donc quelque chose qui est très, très différent que le cinéma.
Alors vous racontez d'ailleurs, hein, Eli Chouraki, votre amour des livres, votre amour de la lecture, mais aussi de l'objet livre. Hein. Vous racontez que vous aimez bien vous balader dans une librairie qu'on imagine assez connue du boulevard Saint-Germain, de Saint-Germain-des-Prés. Mais avant de lire ce dictionnaire, il faut évidemment que ce livre ait été écrit. Est-ce que ça a été un plaisir d'écrire? Comment est-ce que vous avez procéder? Parce que écrire un dictionnaire, c'est pas écrire un roman, c'est pas écrire un essai, c'est quand même un exercice très particulier.
Alors, je vais vous dire, c'est un livre que j'écris depuis longtemps. J'écris tout le temps des choses qui me passent, qui peuvent être des scripts, qui peuvent être des réflexions, qui peuvent être des morceaux de vie, des souvenirs, que je passe mon temps à écrire. Et puis, le hasard a fait qu'un jour, les amis de chez Kero, mon éditeur, m'ont dit, et si vous écriviez le dictionnaire de votre vie? Je me suis dit, voilà une façon de me débarrasser, non pas de ce que j'ai écrit, mais de tout ce que je porte sur le dos, de tout ce que je traîne depuis des années, qui parfois est très douloureux, en le partageant avec les autres. Et j'ai commencé donc à retravailler des textes que j'avais faits et à en écrire de nouveau, pour faire le contenu de ce livre. Et là où il est très... Il m'aide à une résilience ultime, j'ai envie de dire, ce bouquin, c'est que j'ai mis là sur ces pages, sur ces lignes-là, j'ai mis beaucoup de choses qui sont de moi et qui, encore une fois, ont été des choses que parfois, qui sont parfois exaltantes, mais qui sont parfois extrêmement douloureuses.
Alors, la première phrase de l'avant-propos, Eli Chouraki, c'est « J'ai peur d'écrire ».
Oui.
Et la première phrase du dictionnaire proprement dit, au début donc de la première entrée à la lettre A, c'est « J'ai toujours eu peur du noir ». Deux fois le mot « peur », c'est un sentiment qui est un élément majeur de votre vie.
Oui, parce que j'ai toujours pris des risques partout. Et quand on prend des risques, on a peur. On a peur de ne pas être à la hauteur, de rater, de manquer. D'abord la peur du noir, c'est par ça que tout commence.
Oui.
C'est quand j'ai eu un accident de vélo dont je parle quand j'étais un petit garçon.
Qui vous a massacré le visage.
Oui, absolument, qui m'a ouvert le visage. et où on a cru d'ailleurs que j'allais mourir, tout simplement. Donc vous sentez d'abord que ceux qui vous entourent pensent que vous allez mourir, donc ça vous fait peur, et le noir c'est la mort. Tous les psychanalystes vous diront, pourquoi il ne faut jamais laisser les enfants dans le noir quand ils vous demandent la lumière, il ne faut pas les obliger, c'est parce que la peur, c'est tout simplement, c'est la peur de la mort. Donc j'avais peur de cette mort, j'ai eu peur de ce noir-là, et cette peur-là m'a accompagné, mais... Ça n'est pas anecdotique, c'est pas juste dire « allume la lumière ». Non, la peur du noir, c'est la terreur du noir. Donc ça, j'avais peur. Et ensuite, la peur d'écrire, elle est... Encore une fois, est-ce que je vais être à la hauteur ? Mais moi, j'ai toujours placé la barre très haute. C'est-à-dire, quand j'écris, je veux être Victor Hugo.
Oui.
Quand j'écris, je veux être Tolstoï. J'exagère, mais je veux vraiment être quelqu'un qu'on lit, quoi.
Et donc, pour vous, la peur, c'est pas une entrave, la peur, c'est plutôt un moteur. C'est-à-dire une occasion de vous dépasser.
Voilà, de me dire... Alors, de me dépasser, bien sûr, mais en me disant, si je n'y arrive pas, il faut pas que ça sorte. Je le montrerai pas. Je dis pas que... J'ai écrit un chef-d'œuvre, hein. J'ai pas cet orgueil ni cette prétention, mais en tout cas, j'ai essayé. Je me suis pas contenté de dire, je vais écrire un bouquin sympa, je vais dicter à un journaliste copain qui va prendre ça. Et...
Non, là, non, c'est vraiment le dictionnaire de ma vie, donc ouais, c'est quelque chose de très personnel. Le jeu est à chaque ligne.
Ouais, là, j'ai remonté les manches et je me suis dit, maintenant, si Philip Ross lit ce bouquin un jour, ce qui va être compliqué pour lui maintenant, sauf s'il lit dans l'autre monde... Il faut qu'ils se disent, tiens, c'est pas mal ce qu'il a écrit, ce jeune mec.
Alors, vous racontez notamment que quand vous étiez gamin,
si
dans le noir, vous vous rendiez au ciné-club de votre école, dans le 15e arrondissement de Paris, pas très loin des studios d'RFI, d'ailleurs, l'école communale Ballard, vous y allez à pied, donc il fait nuit. Et pour vous donner du courage, vous vous racontez à vous-même des histoires. Mmh. Donc, les histoires sur le chemin du ciné-club, les histoires devant l'écran. Hein, ensuite, alors on sent... La carrière toute tracée, bien balisée, on se dit, bah voilà, ça y est, Elie Chouraki aime raconter des histoires, aime se raconter des histoires, il va en raconter aussi aux autres en passant derrière la caméra parce qu'il aime le cinéma, et en fait, pas du tout, parce que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Alors, vous êtes un enfant de la balle, d'une certaine façon, mais pas forcément de la balle dans le sens du spectacle, vous êtes un enfant de la balle, ou plutôt du ballon de volley.
Oui, du ballon de volley, ouais.
Voilà, vous avez commencé à jouer sur les plages, puis en club.
Ouais. Hein,
jusqu'à atteindre un excellent niveau, puisque vous avez fait capitaine de l'équipe de France de football, quand même.
De volleyball.
De volleyball.
Le football, j'aurais bien aimé, ça m'aurait rapporté plus.
De volleyball. Voilà. Vous êtes très grand, donc effectivement, ça peut vous aider dans ce genre de carrière. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le volley? Parce que la passion, c'est pas éteinte.
Encore
hein.
une fois, ça commence avec l'amitié, le volleyball. Si j'ai un copain qui est à l'école, moi je fais de la natation, je suis un très bon nageur à 10-12 ans et je vais très vite. Et mes profs me disent, de gym, me disent, il faut que tu fasses de la natation, tu peux vraiment devenir un grand nageur. Et puis la natation, c'est quand même très particulier, il faut faire des longueurs toute la journée tout seul. Il n'y avait pas de casque à l'époque pour écouter de la musique, donc c'est les allers-retours pendant.
Ah, vous
et
ennuyez.
Je commence et je me dis, mais quelle horreur, mon Dieu. Et j'ai mon meilleur ami de l'époque, qui s'appelle Daniel Guillaumin, qui est fils de peintre. Une peintre qui s'appelle Poussette, que j'ai adoré, un metteur en scène qui s'appelle Marco, qui a fait Les Idoles en son temps, que j'ai adoré aussi, qui sont un peu aussi ma naissance. Il me dit, mais pourquoi tu joues pas au volleyball? Et moi, je lui dis, tiens, j'ai joué au volley un peu, j'ai poussé la balle avec mon frère, avec mes sœurs sur la plage, pourquoi pas? Et il s'avère que je suis doué pour ce sport, que déjà à 12-13 ans, je fais 1m85, 90, et que je commence à jouer au volleyball et que je... Très vite, je suis repéré par les mecs du lycée qui me font très jouer en Ile-de-France, puis qui m'emmènent en équipe de France Espoir, etc. etc. Et l'histoire commence comme ça.
Et d'une certaine manière, Elie Chouraki, on peut dire que c'est le volleyball qui vous a fait rentrer en cinéma.
Oui, absolument. Alors, curieusement, je joue au volleyball sur la plage à Cannes, pour me faire un peu de pognon l'été, parce qu'on faisait des tournois où on se faisait un peu payer par les gens qui pariaient sur nous. Et il y a un garçon qui est là, qui est extrêmement sympathique, qui parie, qui joue avec nous, qui s'appelle Charles Gérard. Et Charles, à l'époque, est l'acteur fétiche de Claude Lelouch. Et on devient très copains. Et il adore, j'essaie un peu de l'arnaquer d'abord au début, en lui faisant parier quelque chose. Il me dit, mais je te connais, toi, petit con, ne m'emmerde pas, joue et tais-toi. Donc, on devient copains. Et moi, je commence à travailler après mon service militaire au bataillon de Joinville, au volleyball, à François. Et puis, pour des raisons d'organigramme, puisqu'il fusionne avec l'Intransigeant, un autre journal, je me retrouve à la rue, et dans la rue, justement, rue Rohmur, en face de ce grand immeuble qui abritait François à l'époque, je tombe sur Charles, Et il voit ma détresse. Et il voit qu'à 20 ans, je me retrouve à la rue, un peu comme tous les mecs qui cherchent du boulot. Et il me dit, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Il me dit, bon, écoute, viens dimanche au Racing, qui était mon club. On va peut-être trouver une idée. Et ce dimanche-là, bon, bah, il va me présenter un garçon.
Qui s'appelle Claude. Voilà. Alors bon, on se demande, mais qui c'est ce Claude? Voilà, qui dit rien dans un premier
qui
temps.
Qui dit rien. On va jouer au volet. Il me dit, on se trouve sympa. Je le trouve très sympa. Il a une dizaine d'années de plus que moi.
Il vous dit, je tourne un film à La Ciotat bientôt, hein, un film qui va s'appeler Smix Max Mock.
Il dit, viens.
Et il vous dit, je veux que tu sois sur le plateau comme sur un terrain de volet.
Ouais.
Vous avez suivi le conseil de Claude Lelouch? Oui. Ça veut dire quoi être sur un plateau de cinéma comme sur un terrain de volley?
Parce qu'en fait, le volleyball, et c'est là où j'ai eu la chance de jouer au volleyball, qui m'a amené en fait au cinéma, c'est qu'en fait, le volleyball, c'est exactement la même structure que le cinéma. On ne peut jamais rien faire sans les autres. On est seul, et en même temps, on dépend totalement de ceux qui vous entourent. Un metteur en scène, c'est bien qu'il dise « mets la caméra là, on met le 50 mm, la lumière, je la veux ». Mais s'il est tout seul à faire ça, il peut même pas le faire en rêve. Donc, le volleyball, c'est pareil. On a, et je le raconte dans le livre, on a cet instant magique qui est le moment de la touche de balle, qui dure un dixième de seconde, où la balle vient effleurer vos mains et repart aussitôt, ou alors au moment de l'attaque, on tape, mais aussi pareil, on tape, ça dure une fraction de seconde. C'est ce moment-là où tout se joue. Et de la même façon qu'au cinéma, chaque direction qu'on donne à un acteur dure très peu de temps, et en même temps, c'est là où tout se joue.
Du cinéma français qui accompagne peut-être
un des
plus grands films, Francis Lay, évidemment, un homme et une femme, de Claude Lelouch, Palme d'Or de Cannes 1966.
Alors là, je jouais sur la plage au volleyball en face du palais du festival, je ne savais pas qu'un jour je traverserais la rue.
Voilà, deux Oscars, trois Golden Globes en 67, et 53 ans après, et là vraiment on est vraiment pile dans l'actualité, ouais. Claude Lelouch a présenté cette année à Cannes, mais hors compétition, cette fois, la suite d'un homme et une femme, toujours avec le couple devenu mythique Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée qui a beaucoup compté, qui compte d'ailleurs toujours beaucoup dans votre vie. Élie Chouraqui, vous lui consacrez de très très belles lignes dans ce livre. Vous racontez d'ailleurs comment Claude Lelouch vous a présenté, fait Castel, après un dîner très très personnel. Vous allez partager la vie d'Anouk Aimée pendant quelques temps, vous allez aussi beaucoup la faire tourner, en particulier dans votre premier film, Mon premier amour, adapté d'un roman. Un roman signé Jacques-Alain Léger, aux côtés de Richard Berry, dont c'est le premier rôle. Il y a aussi Nathalie Baye et Jacques Villeray. Alors, il y en a eu énormément, de films que vous avez tournés, avec Anouk Aimée. Pardonnez cette question, mais qu'a-t-elle de si particulier? Je parle pas forcément de la femme, mais de l'actrice.
Elle est Anouk. C'est très mystérieux, vous savez, de dire, elle est Anouk, c'est-à-dire qu'elle a à la fois... je dis pas que c'est la... Pardonne-moi Anouk si tu m'écoutes, mais je dis pas que c'est la plus grande actrice du monde, dans l'interprétation, dans la fabrication d'un personnage, etc. Mais quand elle est devant une caméra, il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe. Il y a quelque chose de vraiment très très mystérieux qui fait que elle devient... en dehors, au-delà de la beauté, au-delà du jeu d'actrice, qu'il y a quelque chose qui imprime la pellicule, et maintenant la vidéo, d'une façon dont peu de femmes... Moi, je pense à Audrey Hepburn, par exemple. Je pense à Lorraine Bacall. C'est ces femmes-là. C'est-à-dire, c'est ce genre de personnages qui fait, dont on se dit, bon, c'est pas forcément les plus grandes actrices du monde, mais en tout cas, elles sont les plus grandes parce qu'elles ont ce rapport magique et miraculeux avec la pellicule.
À la lettre F de ce dictionnaire, vous citez les femmes de cinéma de votre vie. Et c'est vrai que les femmes de cinéma de votre vie, on a presque l'impression que c'est un pléonasme quand on regarde le livre et votre filmographie. Et là encore, ça vous rapproche de Claude Lelouch, quoi, qui est un cinéaste qui ne filme pas les femmes comme les autres.
Ouais, quoi, Claude fait ça. Il a une façon à lui de filmer les femmes, c'est vrai, mais il les aime beaucoup, hein. Et moi, je les aime énormément aussi.
Mais qu'est-ce qui vous a appris, Claude Lelouch ?
Vous savez, je le dis pour Anouk dans le livre, et j'aurais pu très bien, et je le dis aussi, je parle de Claude aussi, mais il y a une chose chez ce type qui est incroyable, c'est sa passion du cinéma. C'est-à-dire que il est, un jour, je lui ai dit, si un jour je devais te punir de quelque chose, je te mettrais pas en prison, je t'empêcherais de tourner. Il y a quelque chose qui est chez lui, de même de maladif, c'est-à-dire que parfois dans les conversations qu'on a, je lui dis, tu sais, il y a d'autres choses qui existent. Il y a la ville, il y a des pays, il y a des. Il me dit oui, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est tourner. Et c'est assez. Vous vous rendez compte, ce type a fait 50, je crois, ou plus de 50 films dans une vie. Mais qui a fait ça à part à l'époque des grands studios où personne n'écrivait et on tournait les films à la file. Mais aujourd'hui, où les gens sont producteurs, metteurs en scène et auteurs. Faire 50 films, c'est comme impossible, c'est comme un truc de fou. Donc voilà, il m'a donné cette, j'étais un jeune homme, hein, j'avais 18 ans, 19 ans. Il m'a donné cette passion-là. Et souvent, hein, ça m'est arrivé quand j'ai des moments de découragement, je me dis, et quand tu seras aussi vieux que Claude, est-ce que tu les auras aussi? Et parce qu'il m'épate, il a 81 ans, 82 ans bientôt. Et j'ai envie de le prendre dans mes bras parce que, quand il me parle, la dernière fois qu'il m'a appelé, il y a quelques temps, il me dit, allez, ça y est, Ellie, on va tout changer, on va révolutionner, on peut faire un film pour 200 000 euros avec les portables.
Ah oui.
Ah, je lui dis oui, mais je sais.
La technique, la façon de filmer, ça a toujours été sa grande passion.
Alors maintenant, on les emmerde tous, on fait ce qu'on veut, on distribue nos films, on les filme 200 000 euros, on fait nos films. Et j'ai raccroché, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, ce type qui a fait, qui a vu toute la. Moi, vous savez, j'ai vu les caméras, les premières caméras, quand on tournait l'aventure, c'est l'aventure, elles faisaient la taille de votre bureau, là. C'était énorme. On les soulevait à 6. Et maintenant, ils pensent à tourner avec un portable. Et c'est cette éternelle jeunesse qu'il m'a appris, je crois.
Voilà, Claude Lelouch qui aime aussi énormément les actrices, les acteurs aussi d'une façon générale, qui aime aussi beaucoup les films choraux comme Les Marmottes, hein, ouais, par exemple, ouais. Le film que vous avez signé avec Anouk Aimé, dont on parlait à l'instant, avec aussi, alors faut les citer, hein, Jean-Hugues Anglade, Jacqueline Bisset, Christine Boisson, André Dussolier, Daniel Gélin, Gérard Lanvin, Marie Trintignant, Virginie Ledoyen, Christian Charmetant ou Christopher Thompson, j'en oublie certainement, bande-annonce.
Mais écoute-moi, merde! C'est les vieilles capotes, ça fait des années qu'elles sont dans ma valise! C'était bien avant toi, je te jure!
C'est pas la peine, hein, Stéphane, vraiment, c'est pas la peine.
Écoute, parle-lui, merde, Antoine.
Mais oui, mais écoute, Lucie, c'est une vieille capote, on l'a utilisée plein de fois, Simon, Max, tout le monde s'en est servi! Même Léo, elle est incroyable, cette capote, allez!
Je le savais!
50 000 gonzesses dans cette station, merde, et il a fallu que tu la sautes, elle! Fille de Max, ma nièce.
C'est plus facile de perdre quelqu'un d'un seul coup que de subir tous les jours la haine et la médiocrité.
Et tu sais pourquoi?
Hein? T'as une idée?
S'il faut donner quelque chose à une femme, donnez.
Aïe! Attention! Attention, si vous appuyez encore une fois comme ça dessus, je vous prends
plein
la gueule.
Ma gueule.
Mais c'est non! Non!
Sam.
Lucie!
Sam, t'as enlevé ton t-shirt par inadvertance en pensant que t'en avais un autre en dessous. Mais t'en as pas un autre en dessous.
Françoise et moi, nous allons nous marier. En fait, non, on est mariés depuis 15 jours.
Oh merde, mon gars, Stéphane!
Je l'ai vu! Ne t'inquiète pas!
Parce qu'il n'y a qu'une chose qui te manque et qui te manquera toujours pour être heureuse.
C'est quoi?
Être sûr d'aimer et d'être aimé. Voilà, être sûr, c'est ça qui te manque.
Le retour tes départs, la gueule que tu faisais, la façon dont tu disais bonjour, au revoir, comme un coursier en double fil, c'était pas possible.
Simon, je veux bien que tu me trompes, mais je veux pas que tu me mentes. Si d'ailleurs, je veux bien que tu me mentes. Mais alors vraiment bien, que ce soit imparable.
Je ne demanderai plus jamais si tu m'aimes. Je ne demanderai plus jamais rien. Que de me garder avec toi. Pas me faire trop de mal.
Alors à vos skis, il est 9h-9h05. Le Loup Blanc, 92-34-34. J'attends vos appels.
Allô, Le Loup Blanc?
Oui.
J'ai deux, trois, enfin je sais plus, j'ai plein d'hommes dans ma vie. Et quand je suis avec Pierre, je pense à Paul. Quand je suis avec Paul, je pense à Pierre.
Ouais, bon, bah tu seras jamais heureuse, quoi.
Pourquoi?
Ok, allez, musique, 92, 12, 34, 34. On est le 24 décembre, ce soir, c'est Noël. Je suis sûr que vous allez passer des vacances formidables, mais formidables!
Ouais, formidable. Les Marmottes, un film choral, je vous le disais, sorti en 93. Vous êtes réalisateur, vous êtes aussi scénariste, hein, Elie Chouraqui. C'est quoi un bon personnage de cinéma?
C'est quelqu'un qui fait des choses que personne n'attend, qui surprend constamment, qui n'est jamais le personnage qu'on croit qu'il va être. C'est quelqu'un qui a... C'est comme dans la vie, c'est comme une femme qui vous séduit, c'est comme un type qui est séduisant. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, on va aller boire un café, et ce café devient une espèce de... Ce moment-là devient une espèce de voyage dans un dans de multiples paysages. C'est ça, un vrai personnage de cinéma.
Alors, il y a un vrai personnage de cinéma dans le livre, un monsieur qui a l'air ordinaire et qui fait pourtant quelque chose d'extraordinaire. C'est un gardien de nuit au musée du Louvre, au département des antiquités égyptiennes. C'est votre grand-père.
C'est mon grand-père, oui.
Et alors à ce moment-là, vous le connaissez pas, puisque c'est pendant la guerre, vous êtes né quelques années après. Mais si vous aviez été là à ce moment-là, bah, il vous aurait sacrément surpris, ce monsieur.
Ah oui. Oui, parce que il m'aurait surpris, parce que, et ce qui m'aurait peut-être le plus surpris, c'est que ce qu'il a fait, il l'a fait comme une chose normale que tout Français devait faire.
Alors racontez-nous.
Alors je vous raconte, il est donc gardien de nuit au musée du Louvre. Et c'est la guerre, les Allemands arrivent sur Paris et les conservateurs sont paniqués car ils savent que les Allemands pillent les musées pour emmener tout en Allemagne et à Berlin en particulier. Et chez le Führer, chez Göring, chez Himmler, chez tous ces charmants garçons. Et le conservateur dit à mon grand-père, Monsieur Benhamou, il faut que vous mettiez des tableaux dans un camion et vous partez, et puis on verra, il faut les planquer. Et mon grand-père, qui a quand même une femme, des enfants, dit oui. Mon grand-père, qui est héritier de cette façon d'être, c'est-à-dire de servir la patrie avant de se servir soi-même, dont le père est mort à la guerre 14-18, qui est pupille de la nation, ne peut pas imaginer qu'il ne peut pas faire son devoir. Donc il dit à ma grand-mère, à sa femme, il dit on s'en va. Elle hésite, les enfants, machin, mais... Et donc on met des Bruegel, des David, et on met ça dans le camion. Ça paraît ahurissant, mais c'est comme ça que c'est passé. Et on ferme le camion, et il part avec la famille et le camion. Il arrive à Pau, passe la ligne de démarcation. Il se met dans un château où il fait un peu le ménage, le jardin avec ma grand-mère, etc. Et il y a évidemment un bon collabo qui est dans le château, qui les balance aux fascistes, aux SS. Lui entend cette... Il arrive à se tirer, il se tire, l'aventure continue, il trouve un appartement, il se rend compte avec sa famille, avec tous les gosses, dont ma mère d'ailleurs, hein, que cet appartement est au-dessus d'un bordel de nazis, donc on n'a pas le droit de dire un mot pendant la journée, voilà, c'est le silence total, et puis la guerre se termine, je sais pas comment il a fait pour nourrir tous ces gens-là, tous ces gosses, et ma grand-mère avec, mais les Français, et les Américains, et les Anglais, et tous les Alliés ont repris Paris. Et il arrive avec son camion.
Et en décharge.
Et il arrive devant le musée. Le conservateur le tombe dans ses bras et il dit, ben voilà, tout est là. Et il y avait tous les tableaux et on a tout raccroché.
C'est le scénario d'un film, là, que vous venez d'écrire, Elie
Chouraqui. C'est le scénario d'un film. Mais encore une fois, ce qu'il y a d'extraordinaire, vous me parliez, qu'est-ce qu'un grand personnage de cinéma, un grand personnage de cinéma ou de roman, d'ailleurs, c'est que quand on voit mon grand-père, Babi, Maclouf, Benhamou, né à Oran et Algérie française et qui est français jusqu'à la moelle de ses os, on peut jamais imaginer qu'il va devenir un héros. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire mais ce type va risquer sa vie, la vie de sa famille parce que c'est la France et parce qu'il veut sauver son patrimoine.
Donc c'est un héros ordinaire d'une certaine façon, ordinaire, mais qui fait des choses extraordinaires.
Qui fait des choses extraordinaires. Quand le type du musée lui dit il faut partir avec ce camion, on se dit il va dire non, il va fuir. Eh ben non, il le fait. Quand il trouve les nazis, ils tombent dessus, il arrive à trouver une solution. C'est Noël. Vous vous souvenez dans ce film que j'avais adoré, dont le titre évidemment m'échappe, mais qui jouait son fils le déteste parce qu'il pense qu'il est collabo, parce qu'il donne tout. Il est dans une ferme, il donne des poulets aux nazis. Il est bien avec les Allemands. Et un jour les Américains débarquent. Et son fils a vraiment honte de son père. Et les Américains arrivent à la ferme et ils disent monsieur, je sais pas, monsieur Marcel. Et il dit oui, c'est moi. Et tous les Américains se mettent au garde à vous. Et son fils se rend compte que son père a renseigné les Alliés pendant toute la guerre au risque de sa vie.
C'est tellement ça, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher.
D'aimer. Alors là, c'est le tube absolu, oui. Un extrait des 10 commandements, un spectacle musical que vous avez écrit, produit, mis en scène avec Pascal Obispo, Lionel Florence, Patrice Guirao, Kamel Wally et quelques d'autres. Sonia Riquel aussi, à qui vous rendez d'ailleurs un vibrant hommage dans ce dictionnaire. Ça, c'est drôle d'ailleurs. Racontez-le, parce que comment est-ce que vous l'avez convaincu? C'est simple comme un coup de fil, quoi, de convaincre Sonia Riquel.
J'appelle Sonia, il faut dire que Sonia et moi, on se connaît depuis que j'ai 15 ans, quoi. C'est vraiment ma famille. Et je lui dis, Sonia, je voudrais que tu fasses les costumes des 10 commandements. Et elle me dit, Mélie, c'est impossible. Tu sais le nombre de collections qu'il faut que je fasse dans l'année. C'est impossible. Et on parle et je me dis, bon. Et elle me dit, écoute, si tu as un problème quand même, si tu trouves personne, rappelle-moi. Donc moi, je raccroche. Je décroche, je refais le numéro et je dis Sonia, j'ai trouvé personne.
Voilà comment convaincre Sonia Riquel qui évidemment éclate de rire et qui a fait les costumes que l'on sait.
Costumes, ouais.
1 800 000 personnes sont venues voir ce spectacle. Ouais. Près de 3,5 millions de disques vendus en France et à l'étranger. Deux questions à la fois simples et très compliquées, les Chouraki. Pourquoi une comédie musicale et pourquoi une comédie musicale inspirée du livre de l'Exode?
Je ne sais pas.
Ah ben, la réponse est courte, simple et
je
rapide.
Je ne sais pas, parce que vous savez, c'est ces illuminations qu'on a tout d'un coup un matin comme ça, sans trop savoir pourquoi. On se dit, tiens, et si je faisais un grand film péplum, Les 10 commandements, ah oui, mince, mais Cécile Benmille a fait ça vraiment très bien avec Charlton Heston. Et pourquoi je ne ferais pas un spectacle musical? Ça n'a jamais été fait sur Les 10 commandements. Oui, mais Élie, tu n'as jamais fait de spectacle musical. Oui, bah justement, c'est ça qui est intéressant. Comme tu ne l'as jamais fait, fais-le. Comme moi, je suis à la fois producteur, metteur en scène, je peux avoir ce genre de dialogue avec moi-même. Et puis voilà, et puis je décroche mon téléphone. J'appelle Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs, qui était ma première idée pour faire Les 10 commandements.
Ouais.
Jean-Jacques me dit, comme Sonia, il me dit, mais tu es fou, tu sais pas ce que j'ai, les albums que j'ai, et puis ça m'emmerde, je ne sais pas si je saurais faire ça. Bon.
Et donc vous raccrochez, mais vous ne le rappelez pas.
Non, je le rappelle pas, parce que Jean-Jacques, quand il dit non, il dit non. Et j'appelle Pascal, que j'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est un grand mélodiste. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai une histoire, on se vous voit à l'époque, j'ai une histoire à vous raconter. Et on déjeune ensemble. Au début, il a un peu le trac. Et puis, je crois que j'y mets tellement d'enthousiasme que je l'embarque dans l'histoire et on commence à travailler.
Alors, vous consacrez un chapitre de ce dictionnaire à Dieu. Dieu que vous écrivez d'ailleurs d'une façon assez particulière. Élie Chouraki. D-E, mais après le D, vous mettez un point.
Oui, parce que chez juifs, on ne peut pas écrire le nom de Dieu.
Ah, on ne peut pas écrire le nom de Dieu quand on est juif.
Non, parce que...
Y compris
dans un dictionnaire de ma vie. Alors, j'avoue que c'est une coquetterie, hein, parce qu'il m'est arrivé de l'écrire. Mais j'ai voulu marquer ça, justement, pour qu'on me pose cette question et pour qu'on y réfléchisse. Car en fait, si vous voulez, bon, Dieu, en fait, ce qu'on appelle Dieu, cette espèce d'entité, de choses auxquelles on peut croire, auxquelles on peut ne pas croire, ou comme moi, auxquelles on peut croire de temps en temps et ne pas croire à d'autres moments, est une chose qui est à la fois unique et multiple, à la fois unique et multiple, qui est un être qui est partout et nulle part, qui nous entoure et disparaît quand on veut s'approcher de lui, et donc qui est qu'on ne peut pas nommer et qu'on ne peut pas montrer. Vous savez, évidemment, dans les synagogues, il n'y a pas de représentation comme Jésus dans les églises, parce qu'on ne peut pas représenter le visage de Dieu. Voilà, donc le D.IEU fait que ça n'est pas le nom de Dieu que j'écris.
Alors, vous évoquez vos conversations avec Dieu,
ouais.
Élie Chouinqui. Est-ce que c'est un bon compagnon? Est-ce qu'avec lui, on peut parler de tout?
Alors, il est assez silencieux quand même, mais il répond. J'adore cette phrase de Guitry que je cite dans le...
Bien sûr, je crois en Dieu, mais toute manifestation de sa part serait la bienvenue.
Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Simplement, je suis comme tous les humains. J'ai cette force ou cette faiblesse de m'adresser à Dieu, pas seulement quand ça va bien, mais plutôt quand ça va mal. On est tous comme ça. C'est quand tout d'un coup la peur nous saisit, que l'angoisse vient, que l'inquiétude vient, ou qu'on rencontre la douleur et qu'on ne sait plus où aller. Tout d'un coup, il y a Dieu. Il nous reste Dieu. Et donc on se tourne vers lui souvent pour des raisons qui sont des raisons, difficiles à exprimer. Et moi, je dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que je dialogue avec lui depuis que je suis un enfant. Hein. Je lui pose les questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. J'attends des réponses de sa part. Et le fait de me poser les questions et de les exprimer clairement font que parfois j'ai des réponses qui viennent de moi et que je peux croire venir de Dieu. Donc voilà, c'est un dialogue permanent.
Et si Dieu vous demandait, Élie Chouinqui, est-ce que vous aimez la vie?
Ah oui.
Vous lui répondez oui?
Ah oui, oui. Je crois que, mais je le dis aussi dans le livre, quand je parle du peuple juif, justement, avec ses qualités et ses défauts, et qui n'en a pas des défauts, mais je dis qu'une des grandes forces de ce peuple, c'est cette passion pour la vie.
Mais aimer la vie malgré tout.
Malgré tout. Parce qu'on a que ça. Il y a une phrase de mon camarade, c'est une maison bleue adossée à la colline.
Ah, Maxime Leforestier.
De Maxime. Pardon, Maxime. C'est la vieillesse. Il y a une phrase de Maxime dans Spartacus, un spectacle que j'ai fait, qui dit, nous n'avons que la vie. Si tu parles à ton Dieu, parle-lui de mon fils. Si tu parles à ton Dieu, parle-lui de justice. N'en veux pas à la vie. Parce que nous n'avons qu'une vie, nous n'avons qu'elle. Et en fait, oui, il faut aimer la vie parce que nous n'avons qu'elle. On n'a pas d'autre choix que de l'aimer, sinon c'est la douleur pour l'éternité.
Papa, à Weimar, j'ai visité Buchenwald, le camp. Au musée, j'ai vu une photo, la photo d'un médecin, d'un SS. Et sur la même photo, derrière lui, il y avait un déporté qui...
Ouais.
Quoi?
Non, rien, c'est... Il te ressemble. Mais tellement.
C'est fou, les ressemblances, hein.
Le prisonnier qui est derrière lui, sur la photo, ouais, c'est lui qui m'intéresse.
David Nathan Wagner.
Mais c'est David, votre grand-père.
Depuis que t'as trouvé la photo de cet homme...
Est-ce que tu viens de dire cet homme-là? David Nathan Wagner, c'est ça?
Quel que soit son nom...
Mais papa, David Nathan Wagner est ton père.
Mais alors, vous ne savez rien. Rien de David, rien de Virginie.
Qui est cette très séduisante jeune femme?
Gabi, mon grand-père Marcel.
Enchantée.
Dans ma famille, presque tout le monde était nazi. Je suis l'héritière de cette horreur, de cette culpabilité.
Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si.
Maman !
Mon père a voulu tout me cacher, mais il m'a tout transmis. Je veux écrire son histoire.
Mais es-tu sûr et certain de vouloir entendre ça ?
La violence était tapie dans les silences de mon père.
Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? Pourquoi silence, là? Parce qu'il était juif? Parce que t'avais honte?
Mon père s'appelle Marcel Fabre.
On peut tout supporter. la faim, le froid.
Je peux te raconter en détail toute la vie de David Wagner, heure par heure. J'en sais plus sur lui qu'il n'en a jamais su.
Mais la peur est insupportable.
Tais-toi !
Tu crois tout savoir et tu dis n'importe quoi.
La bande-annonce de L'origine de la violence, hein, votre film, et les Churaki sortir en 2016, très très émouvant, la musique de Beethoven, évidemment, renforce encore cette émotion. Il y a cette phrase qu'on a entendue de la bouche de Michel Bouquet, hein, toutes les familles ont un secret, ça n'empêche pas de vivre.
Ça n'empêche pas de vivre.
Si. C'est le si, ouais. Après un petit silence, un point d'interrogation, ça en dit tellement long. C'est vrai que le film raconte une quête de vérité, hein, la quête de Nathan Fabre, qui est joué par Stanley Weber, face au silence entretenu par son père Richard Berry. Cette quête de vérité, cette façon de débusquer un secret, le non-dit, c'est aussi un peu la vôtre, Elie Chouraki, parce qu'il y a eu beaucoup de silence aussi dans votre enfance. Ouais, vous l'évoquez en particulier lorsque vous parlez de votre père.
Oui, parce qu'on ne parlait pas, on disait rien de la guerre, on disait rien de la disparition des êtres chers, on disait pas d'où on venait, on disait pas qui on était. Et moi, par exemple, vous vous rendez compte que mes parents parlaient parfaitement l'arabe et l'espagnol, et qu'on ne me l'a jamais enseigné, parce que je devais être un Français de la République, un petit Français, un petit gade, un petit poulbeau, et que mes ancêtres devaient être Vercingétorix. C'est très curieux, donc c'est cette chape de plomb sur ces années de mort et de tristesse pour tout le monde, mais peut-être en particulier pour les Juifs, c'est cette chape de plomb sur la disparition d'un enfant, c'est cette chape de plomb sur tous ces moments de la vie qui font que comme on ressent tout, comme on comprend tout quand on est un enfant, comme on lit ce que dit la bande-annonce aussi dans les silences, plus que dans des longs discours, et que les discours, le mot, et on ne le sait pas encore, est la seule façon d'être libéré. C'est la seule voie vers la résilience. On garde ces secrets de famille, ces mystères, comme un fardeau qu'on porte et qui est très très difficile à porter.
Alors il y a une scène de cinéma, on en revient toujours au cinéma, ouais. Finalement dans votre livre, c'est quand le petit garçon que vous êtes surprend sa mère en train de regarder une tétine, et sur le moment vous comprenez pas très bien ce qui est en train de se passer, et puis bien plus tard, il y a un flash, quoi. Vous comprenez, et là c'est une sorte de gouffre, hein, qui s'ouvre sous vos pieds.
Mais car en fait mes parents ont perdu un enfant, un petit garçon qui était mon frère, donc... quand ils essayaient de fuir Paris, c'était l'hiver.
Il s'appelait Marc,
oui. Et on ne me l'a jamais dit. Et un jour, évidemment, dans une conversation de famille, un jour, je vois, voilà, ce que vous évoquez, c'est-à-dire que je vois ma mère ouvrir un placard, une armoire, exactement, et elle sort un tissu, et dans ce tissu, je sens que je surprends un moment un peu mystérieux, et je me tais, elle ne me voit pas, et là, il y a une tétine. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Ça me trouble, bien sûr, ça me reste comme ça. L'enfant que je suis analyse déjà ce que ça signifie. Bien sûr, je sais que quelqu'un est mort. Mais ça n'est pas dit, donc pour moi, c'est... Et je rentre dans ce... Et puis, bon, et le temps passe, 10 ans, 20 ans, et puis un jour, dans un repas de famille, on me parle de ce frère mort, Marc, bébé, dont on ne m'a jamais parlé, comme si j'étais parfaitement au courant de ce qui lui était arrivé, et qu'on peut l'exprimer maintenant que je suis un adulte. Et ça me... Évidemment, ça me fait du mal. D'abord parce que c'est mon frère. Et puis parce que je comprends que les douleurs avec lesquelles j'ai vécu pendant tant d'années, c'est aussi parce que j'avais ce frère qui était parti.
Dirait des nouvelles sur RFI.
Le dictionnaire de ma vie, signé Elie Chouraki, sort demain 15 mai aux éditions Kero. Il est avec nous aujourd'hui dans VMDN. Là, c'est la musique de Michel Legrand, la musique de votre film « Qu'est-ce qui fait courir David ?» On est en 1982. Film très important parce qu'à l'intérieur de ce film se trouve la recette de l'omelette à confiture. Enfin, pas la recette. La recette, elle est dans le livre, mais se trouve l'omelette à la confiture dont vous détaillez donc la recette à la lettre M. Hein, de ce dictionnaire, je laisse les auditeurs le découvrir. On n'a pas le temps de le donner de A à Z. Mais je voudrais revenir à l'exergue, car il y a plusieurs citations en exergue. La première est de Paul Verlaine. En dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents.
Oui, parce que c'est l'histoire de ma vie.
La troisième citation, elle est extraite de la chanson de Brassens, La mauvaise réputation. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on prenne une autre route qu'eux. Donc les sots, les méchants, les braves gens, vous en avez tant souffert que ça, du regard des autres, Élie Chouraqui ?
Oui, parce que j'ai décidé que les autres me regardent, et qu'à partir du moment où on prend ce risque, on risque de prendre des coups, évidemment. Ça n'est pas impunément qu'on met un film en scène, ça n'est pas impunément qu'on écrit un bouquin, ça n'est un livre, ça n'est pas impunément qu'on fait un spectacle, impunément qu'on répond à votre interview. À chaque fois, les gens vous jugent, ils disent oui, ce type. Alors, où il y a les gens qui sont séduits, et puis il y a ceux qui vous veulent du mal. Et puis il y a ceux qui vous veulent du mal pour des raisons qui sont les leurs, qu'on peut à la fois respecter et ne pas admettre. Puis il y a ceux qui vous veulent du mal pour des raisons qui sont, j'ai envie de parler de chromosomes, de génétique, vous voyez ce que je veux dire, qui sont du mal parce que vous êtes juif, parce que vous appartenez à une autre culture que la vôtre, même si la leur, ils la partagent avec vous aussi, la culture franco-française. Et ça, c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux parce que moi qui suis un homme, je le dis, bon, je suis un type sympa, j'aime les gens. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour parler avec eux, communiquer avec eux. J'aime me retrouver autour d'une table, rire, parler, manger, boire. J'aime les autres. Moi qui aime les gens, je ne comprends pas qu'on ne m'aime pas.
Et donc, il y a eu par exemple ce reportage en 2004 pour le magazine Envoyé spécial sur France 2 sur l'antisémitisme ordinaire. À l'époque, on vous a accusé à l'époque de jeter ou de vouloir jeter de l'huile sur le feu. Vous l'avez visiblement extrêmement mal vécu. Est-ce qu'avec le recul, Élie Chouraqui, vous avez un regret ?
Aucun. Il y a une situation en 2000 qui est une situation où l'islamisme radical qui nous fait tant de mal en ce moment, cet islamisme-là apparaît dans les banlieues parisiennes. Moi qui suis informé parce que je m'intéresse à tout, Yves Azéroual, qui est mon complice dans cette aventure, me dit il faut qu'on aille voir ça. On enquête pendant un mois et on se rend compte, on va voir des imams, on va voir les gens des écoles et on se rend compte qu'il y a les imams nous disent, vous savez, il faut faire attention, il y a les types qui se autoproclament imams et qui entraînent les gosses, et je le dis et on fait un reportage là-dessus. Et moi je m'attends à ce qu'on me dise, bravo, vous avez dénoncé, vous êtes un lanceur d'alerte, bravo, vous avez dénoncé quelque chose qui existe il y a 20 ans après, si vous vous rendez compte. Et on me tape sur la gueule.
Vous avez eu raison trop tôt ?
J'ai eu raison, mais non, mais comme Cassandre. Vous savez qu'on disait de Cassandre, c'est dans le livre aussi, qu'on ne pouvait pas la croire parce qu'elle ne disait que la vérité. Et moi, je dis la vérité. Je dis ce qui va se passer. Et ça se passe dans les 20 ans qui viennent de se passer. Ça se passe, alors qu'à l'époque, on aurait pu réagir. Raffarin, qui est un type malin d'ailleurs, le sait. Il me demande de venir en conseil des ministres restreint pour expliquer l'histoire.
Il est premier ministre à l'époque.
Il est premier ministre à l'époque. Et j'essaie d'expliquer, mais personne n'entend. Et j'ai beau hurler, on a beau hurler, on est quelques-uns, je suis pas tout seul. Personne n'entend. Et voilà, cette douleur-là, moi, ce que je veux à ce moment-là, avant tout, c'est protéger les musulmans.
Alors vous parliez de Jean-Pierre Raffarin, vous me tendez la perche pour qu'on évoque un petit peu la politique, Élie Chouraqui, parce que vous évoquez plusieurs hommes politiques. Alors Jacques Chirac, vous avez parlé de Raffarin, plutôt de la sympathie pour lui.
J'adore Jacques Chirac.
Voilà, pour quelle raison d'ailleurs ?
Parce qu'il est Jacques Chirac. C'est comme un Anouk Aimée. C'est des mecs, quand Chirac rentre dans une pièce, il est génial. Il a cette force-là, il a cette sympathie immédiate. On peut critiquer sa position politique, aimer ce qu'il fait, ne pas l'aimer, mais il est, ah! La pomme, vous savez.
Oui.
Je mange des pommes tous les matins.
Voilà. Donc c'est vraiment l'homme sympathique plus que l'homme politique, en fait, que vous aimez.
Oui, parce que le d'abord, j'aime Claude Chirac, sa fille. J'aime sa femme, mais sympathique aussi. Elle est adorable. Cette dame qui a été très controversée. Mais lui est un type. Et puis, vous savez, moi, j'ai demandé des choses à Jacques Chirac. Il m'a répondu tout de suite. Il était extrêmement abordable pour les autres. Il était très, très disponible.
Bon. Jacques Chirac disponible, mais alors François Mitterrand, mais alors vraiment vous l'assassinez quoi à travers vos mots, vous racontez une histoire qui peut sembler complètement anecdotique, hein, à propos de la souris, donc la souris informatique, hein, s'entend, hein, il s'agit pas du tout de l'animal, évidemment. Il y a une sorte d'incompréhension là, c'est-à-dire comme si vous déniez à François Mitterrand sa qualité d'homme d'État, c'est-à-dire un homme d'État, c'est aussi un homme de vision, un homme capable d'être de son temps et de regarder vers l'avenir. C'est comme ça que vous le décrivez.
Alors d'abord, je vais vous dire, vous savez, les gens qu'on a le plus aimés, quand ils vous déçoivent, c'est ceux qu'on déteste le plus. Et moi, en 80, je vote pour Mitterrand. Et je me dis, j'ai 31 ans, et je me dis, ma vie va changer, la vie des Français va changer. On va enfin avoir cette fraternité, cette égalité, cette liberté qui est écrite sur le fronton de nos écoles et de nos monuments publics. J'y crois, mais j'y crois. Et puis le temps passe et je me rends compte qu'on m'a bluffé. Je me rends compte qu'on installe, que Papon et Touvier viennent pratiquement prendre le petit déjeuner à l'Élysée, que...
Enfin, c'est Bousquet, surtout.
Bousquet. Oui, je mélange tout, parce que tout à l'heure, je vais interviewer les Klarsfeld, donc je vais leur parler de ça. Je me rends compte que les promesses ne sont pas tenues, je me rends compte qu'il y a une duplicité qui s'installe, il y a une... qu'en fait, le poisson qui pourrit par la tête, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que tout part du haut, et la France va commencer à se désagréger. Et je le ressens profondément. Et là, la rage me vient, et je dis non, c'est pas possible, on peut pas autoriser ça. Et j'en avais parlé d'ailleurs avec Jacques Chirac, qui était d'accord avec moi sur ce point de vue. Il disait, mais mon combat contre Mitterrand n'était pas un combat de parti, c'était un combat d'homme à homme. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de noir dans cet homme-là, et c'est ce noir-là que je voulais combattre, et c'est ce noir-là que moi je combats. Alors, il y a des gens qui adorent Mitterrand, et on peut pas les blâmer. Ils ne voient qu'une partie de son travail. Moi qui ai beaucoup travaillé dessus, qui ai beaucoup regardé ce qui s'est passé, je pense que ça a été ça reste un grand problème pour notre pays.
Élie Chouraqui, j'ai lu que dans votre actualité, là, qui va se produire dans quelques semaines, dans quelques mois, vous lancez en septembre prochain un cours d'art dramatique à Paris, hein, ça va s'appeler le studio de l'acteur. Alors j'ai lu aussi que vous allez travailler avec vos élèves sur la bibliothèque des sentiments, autrement dit le vécu pour s'emparer des textes. Ça ressemble à l'acteur studio ou à la méthode Stanislavski?
C'est pas loin, c'est pas totalement différent. Moi, ce que je préconise, vous savez, j'ai fait une expérience extraordinaire. J'ai été avec Strasberg pendant quelques temps et il m'a emmené dans son école Strasberg. Il m'a expliqué un petit peu ce qui se passait. Et maintenant, ce que j'essaie de faire avec le studio de l'acteur, c'est de transmettre à des élèves non seulement une façon de jouer la comédie, mais aussi une façon de vivre son métier d'acteur. Parce que je veux non seulement qu'ils le vivent bien, mais qu'ils en vivent bien.
Merci beaucoup, Élie Chouraqui, d'être passé nous voir. Et la transmission, justement, vous en parliez à l'instant, c'est aussi vraiment l'un des thèmes majeurs de ce dictionnaire de votre vie, publié aux éditions Kairo. Merci encore.
Merci à vous.
Demain, tout à fait autre chose, nous recevrons l'illustrateur et dessinateur de bande dessinée. Encore que vous avez travaillé dans la BD aussi. Élie Chouraqui, il s'appelle Tanino Liberator. C'est lui qui sera avec nous demain, à la veille de l'exposition que lui organise la galerie Barbier-Maton à Paris. Et vous m'en direz des nouvelles.
Faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.